Vivant, deuxième partie consacrée aujourd'hui au PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement.
Le PNUE qui est aussi notre partenaire et que nous retrouverons une fois par semaine pour un commentaire sur tous les grands dossiers internationaux de l'environnement. Et pour comprendre ce qu'est le PNUE et son organisation, nous avons le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui son directeur exécutif, Hakim Steiner. Bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, Sylvie Lemay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la division technologie, industrie et économie du PNUE, une division basée à Paris, alors que le reste du programme, lui, siège à Nairobi, au Kenya. Mais avant que vous nous expliquiez ce que c'est que le PNUE, nous vous proposons un petit retour au sommet de la Terre, à Rio, au Brésil. C'était en 1992.
Notre Terre souffre à la fois des rigueurs des climats et des fureurs des hommes.
De silence pour la planète. Boutros Boutros-Ghali, le secrétaire général de l'ONU, a donné le ton. Solennel. Pour lui, ce sommet de la Terre est historique. Pas seulement parce que les États du monde s'intéressent enfin aux relations entre l'homme et la nature. Historique surtout à cause de son ambition.
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Le sommet mondial de la Terre s'est ouvert ce matin à Johannesburg, en Afrique du Sud. Gigantesque symposium organisé par l'ONU, près de 50 000 personnes qui vont se pencher sur l'état de la planète et essayer de voir comment on peut, qui sait, concrétiser les promesses faites il y a 10 ans déjà à Rio.
Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Le monde veut-il se donner bonne conscience ou veut-il réellement régler les problèmes de la planète? Comment faire rimer richesse économique et respect de l'environnement?
La situation climatique se dégrade.
La communauté internationale au chevet de la planète, la conférence de Bali sur le climat est ouverte. Objectif, imposer de nouvelles règles et limites dans les émissions de gaz à effet de serre.
Car le temps presse. Rien n'est prévu au-delà de 2014. La situation climatique se dégrade et il faut engager l'avenir avec un protocole de Kyoto revu et corrigé ou sur d'autres bases qui restent à trouver.
Mon propre pays, les États-Unis, est le principal obstacle au progrès des négociations ici à Bali. Nous savons tous cela.
Notre obligation est claire ici à Bali. Nous devons adopter une feuille de route. Un mandat de négociation impératif.
Et les grands principes, c'est bien, mais derrière, il faut effectivement mettre les moyens. Et on n'est pas toujours prêt. On est plus prêt à donner des leçons, je crois, qu'à donner de l'argent.
Certains ont cru parfois que cette conférence, elle était un point d'arrivée. Elle est un point de départ. Mais c'est quand même déjà ça.
Alors, depuis la création du PNUE en 1972, à l'issue de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, le PNUE a été de toutes les initiatives internationales pour protéger l'environnement, que ce soit la CITES, la Convention sur le commerce des espèces menacées d'extinction, la Convention de Bonn sur les espèces migratoires, la Convention de Vienne ou le Protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone, la Convention de Bâle sur les déchets dangereux, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, le GIEC sur l'expertise climatique, la Convention sur la diversité, et j'en passe. Dans tous ces domaines et dans bien d'autres, vous avez encouragé la coopération internationale pour protéger l'environnement. Mais vous avez surtout montré la voie. Hakim Steiner, je voudrais que vous nous expliquiez quels sont les objectifs du PNUE et surtout ce sur quoi vous vous appuyez pour définir ces stratégies globales dans lesquelles vous entraînez tous les États.
Oui, je crois que depuis 1972, le système des Nations Unies a vraiment une voix pour l'environnement. Et dans la définition du mandat du PNUE, c'est d'être l'autorité internationale pour l'environnement. Ça veut dire qu'on joue un rôle dans trois domaines. La principale, c'est la science. C'est toujours un problème que les entrées nationales peut-être ont des points de vue différents. Mais le rôle du PNUE, c'est de réunir la meilleure science qu'on a sur notre planète et donner aux pays et aussi aux citoyens une base pour définir des actions pour le futur. La deuxième rôle, c'est de réunir des pays dans un contexte de négociation pour trouver des moyens, des plateformes pour agir, parce que nous avons une connaissance des problèmes de notre planète depuis 30, 40, 50 ans. Il y a des gens qui disent 200, 300 ans. Mais on a toujours le problème que les entrées nationales, les priorités nationales sont différentes d'une réalisation qu'est-ce qu'on doit faire dans une communauté internationale. Et je crois que la troisième fonction, c'est de supporter particulièrement les pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans le contexte d'équité. Ça veut dire en besoin les pays industrialisés de s'engager dans le développement économique et aussi dans la question de durabilité, avec un mode de coopération, pas de compétition dans une économie mondiale.
Alors, quels sont vos moyens financiers, humains, et comment êtes-vous organisé pour être présent sur tous les continents? Parce que c'est très difficile, on le comprend bien, de réunir tous ces États et d'insuffler comme ça le virage.
La vérité, c'est comme dans beaucoup des pays, que l'histoire de PNU, c'est une histoire difficile. On a cherché des chemins pour surmonter principalement cette perception que l'environnement, c'est toujours en contradiction avec l'économie. Ça veut dire, jusqu'en 1972, on cherche des moyens pour s'engager dans le centre de notre débat, dans le centre des décisions économiques de notre pays. Aujourd'hui, on a trouvé que la science est très fort. Le GIEC, vous avez mentionné, je crois que c'est une histoire, une illustration de pouvoir de science qui finalement a convaincu une communauté internationale qu'on doit agir. Vous avez mentionné d'autres conventions, elles sont toutes basées sur cette fondation scientifique. Mais la capacité des Nations Unies, c'est vraiment de réunir des pays, de trouver des modes de négociation et après des programmes pour supporter des pays. Par exemple, pour l'ozone, on a une histoire extraordinaire avec le protocole de Montréal.
Oui, on va en parler tout à l'heure. Moi, je voulais vous poser une autre question en préalable. Le programme des Nations Unies pour l'environnement n'est qu'un programme, ce n'est pas une agence. Quelles sont les limites d'un programme? Il y a peu en France, certains demandaient la création d'une agence mondiale de l'environnement, on a parlé de casque vert, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est comprendre un petit peu quelles sont justement peut-être vos difficultés ou les limites de l'exercice du programme.
Je crois que la première limite, c'est vraiment le mandat. Quand on donne une organisation un mandat très faible, d'observer qu'est-ce qui se passe sur la planète, mais pas les pouvoirs d'agir pour vraiment financer, commencer des actions, on met cette organisation dans une situation un petit peu faible, et ça c'est le criticisme aussi des Nations Unies dans ce domaine. Mais je crois finalement c'est une question où notre société et notre gouvernement sont dans un processus de réaliser que l'environnement, c'est pas un facteur marginal aujourd'hui. Le futur de notre économie dépend sur un aménagement des ressources naturelles, de notre environnement, dans une autre façon. Et avec ça, je crois, aussi le rôle du PNU et des Nations Unies va changer. Mais aujourd'hui, nous sommes une petite organisation avec pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est un des contraintes de travailler avec plus de 150 pays en Afrique, Amérique latine et l'Asie.
Enfin, quand vous dites petite organisation, on peut peut-être dire quand même combien de personnes ça représente.
Aujourd'hui, nous sommes presque 800 personnes, une plupart à Nairobi dans le siège, mais presque 50% distribués dans notre bureau régional, dans les bureaux qui travaillent sur des sujets différents, avec un budget dans le fonds d'environnement, la caisse principale pour le PNU, des moins de 80 millions de dollars. Et ça vous illustre un petit peu le défi qu'on a aujourd'hui.
Alors parmi les bureaux régionaux, justement, Sylvie Brunet, vous dirigez la division technologie, industrie et économie du PNUE qui est basée à Paris. Alors en quoi consiste cette division et quels sont ses domaines d'action?
Bien, la division technologie, industrie, économie est une des divisions du PNUE, comme celles qui sont basées à Nairobi. Et je dirais que c'est celle qui est la plus proche du secteur privé en général et des aspects technologie et économique. Et elle a trois principaux axes de travail. Le premier, c'est sur les produits chimiques, sur lequel elle a au fond trois modalités de travail qui consistent à informer les gouvernements et le monde des effets des produits sur l'homme et l'environnement. Le deuxième, c'est effectivement de faire adopter les traités. On parlait tout à l'heure de celui de Montréal, mais il y en a d'autres. Et après, c'est de mettre en œuvre des projets concrets sur ces sujets-là. Donc, produits chimiques, premier élément. Le deuxième point, c'est le changement climatique, avec au fond les mêmes trois points que je viens de citer, l'aspect scientifique et information, poussé à adopter un traité, et en particulier soutenir la Convention climat cette année, qui est particulièrement important, et troisièmement, mettre en œuvre des projets. Et le troisième axe de travail de cette division, c'est ce qu'on appelle la gestion durable des ressources naturelles. C'est au fond faire en sorte que, précisément, croissance et développement soient compatibles.
Alors, excusez-moi, c'est pas Sylvie Brunet, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé comme ça, c'est Sylvie Lemay.
We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go to 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth, as I sing my song. Open the eyes of your mind, your ears and mouth, as you hear my words. The waste away, but nevertheless, it's never late. Oh, see, the times have changed. I thought you knew that these words will never ever wait for you. The world has gone past times of fighting, so drop your guns and your swords and let us live all as one. We all need love and understanding. So drop your guns and your swords and let us live all as one.
Dans ses pas du vent sur RFI. Le PNUE a de nombreux succès à son actif et l'un des plus connus concerne la coalition internationale que vous avez portée pour lutter contre le trou de la couche d'ozone, une situation aujourd'hui stabilisée que nous commente le chercheur du CNRS, Jean-Pierre Pomereau.
Chaque année, nous faisons un trou d'ozone de 60% en Antarctique. Il est un peu sensible à la météorologie, mais chaque année il se produit. Il est en train de se produire. Au début du mois d'octobre prochain, nous aurons 60% d'ozone de moins au-dessus du mont d'Urville et de tout l'Antarctique. Bon, il y en a jusqu'en, à toutes choses égales, jusqu'en 2040-2050 pour revenir à l'état d'avant 1980. Mais on peut être optimiste, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'on reviendra effectivement en arrière. Mais il y a quand même des conditions assez difficiles, c'est que j'ai dit toutes choses égales, mais les choses ne sont pas égales. Le climat change.
Donc quand les hommes se rassemblent, en fait, ils peuvent prendre quand même des décisions quand la planète est en danger.
Bien sûr, ils peuvent. Tout le problème est une constante de temps. Est-ce qu'ils peuvent prendre des mesures à temps pour être efficace? Si on avait laissé, par exemple, on a fait des calculs depuis, si on avait laissé 10 ans de plus, ce qui est rien, 10 ans, si on avait laissé 10 ans de plus de CFC, alors la destruction de l'ozone se serait étendue beaucoup plus fortement à l'échelle de toute la planète, y compris aux tropiques.
Cette mobilisation internationale, l'interdiction des substances qui ont été responsables de cette dégradation et la capacité de l'industrie à modifier ses process de fabrication ont été saluées par tous comme un succès de la communauté internationale face à un péril planétaire. Mais pourtant, face à d'autres menaces, aujourd'hui tout aussi urgentes et dramatiques, nous ne retrouvons pas cette même efficacité. Comment vous expliquez cela ?
Je crois que l'ozone, c'était un problème très, très spécifique. Et on a trouvé, sur la base d'une étude scientifique, l'impératif d'action. On avait aussi une technologie que c'était sur la table avec des entreprises. Et on a trouvé un mécanisme coopératif entre les pays pour financer cette réduction. Et je crois que ça, c'était un plan très clair. Et ça nous donnait le moyen pour agir ensemble. Et le travail de PNUE et beaucoup des organisations internationales, mais les gouvernements, les autorités nationales, elles ont participé extraordinaire parce qu'on a éliminé presque 95% de cette substance maintenant. Je crois, si on a la comparaison avec le climat, c'est plus dur, mais encore une fois, on doit dire que ça fait seulement 20 ans qu'on a réalisé que nous avons un problème avec le climat. Aujourd'hui, nous avons une convention avec le système des Nations Unies, nous avons le Kyoto Protocol, nous avons le GIEC, et maintenant nous sommes en train, en 9 mois, de trouver une nouvelle édition d'un plan vraiment capable de changer le futur de notre planète. Ça veut dire on a les moyens, mais on a les problèmes des discussions publiques, l'économie, tous les arguments qu'on trouve pour agir pas.
Alors justement, il ne reste plus qu'un an de travail pour aboutir à un accord international sur le climat à Copenhague. Alors quels sont les obstacles, selon vous, Hakim Steiner, qui restent à lever, et quelles sont vos recommandations pour le succès de cette négociation ?
Je crois un des obstacles, c'est moins important aujourd'hui, c'était la question scientifique. Avec le rapport qu'on a présenté ici à Paris, ça fait 2 ans maintenant, la discussion sur la science du climat n'est pas finie, mais on a résolu les questions principales. Maintenant, on a les moyens d'agir. Les questions aujourd'hui sont, est-ce qu'on peut changer la structure de notre économie dans une façon qui détruit pas des emplois, mais nous donne des emplois dans le futur, nous donne des croissances de notre économie? Et le plus grand problème, c'est comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes entre les pays industrialisés qui ont la responsabilité historique et les pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qui n'ont pas la responsabilité, mais ils ont aujourd'hui le problème que les conséquences sont réelles. Et cette négociation, c'est une question d'équité et aussi d'une négociation capable de nous donner un cadre d'action dans lequel chaque pays peut se trouver.
Alors, moi, je voudrais juste évoquer la question des puissances émergentes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que ça perturbe un petit peu la négociation, parce que là, on a un groupe qui est affilié finalement au groupe des 77 au pays du Sud, et en même temps, ce sont des puissances qui vont peser très lourd. La Chine est peut-être aujourd'hui le plus gros producteur de CO2.
Oui, mais dans une perspective historique, on doit se rappeler que les États-Unis, le principal acteur dans ce problème de changement climatique avec CO2, a pas participé dans les années passées dans un accord international. Ça veut dire aujourd'hui, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ils ont raison de dire qu'est-ce que vous faites dans les pays industrialisés. On ne doit pas oublier que aussi dans l'accord de Kyoto, aujourd'hui, il y a des pays, le Canada, Autriche, l'Italie, ils n'ont pas arrivé à son but de réduire le CO2 dans les marges qu'ils ont signées dans l'accord. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de doutes dans les pays moins développés si les pays industriels ont vraiment la détermination et la capacité de réagir.
Alors, le nouveau président américain Barack Obama souhaite engager une politique environnementale ambitieuse pour son pays et jouer un rôle de leader dans les négociations internationales sur le climat. Comment vous réagissez à ces propos ?
Je crois qu'il a déjà nous donné des signaux et des actions extraordinaires. Cet matin, il a donné à son Environmental Protection Agency l'instruction de revisiter les limites des émissions dans les véhicules américains. Il a fait la promis dans son politique d'économie maintenant de doubler l'énergie renouvelable dans les prochaines 2-3 ans. Et il a promis que les États-Unis vont jouer un autre rôle, un rôle plus constructif dans les négociations internationales. Je crois qu'il a complètement changé la politique du climat dans le contexte d'un rôle que les États-Unis peuvent jouer.
Alors ça, c'est de bon augure pour Copenhague, non ?
Oui, je suis convaincu. Et déjà, à Poznan, le mois de décembre l'année dernière, on a vu qu'il y a un autre perspective pour les négociations, mais la réalité, c'est que c'est pas seulement les États-Unis, on a plus de 190 pays qui, en 9 mois, doivent signer un document, et je crois qu'on a un chemin très long à marcher encore.
Alors, vous avez annoncé que vous aviez 2 priorités cette année, il y a le climat et la mise en place d'une économie verte. Alors, qu'est-ce que vous entendez par économie verte ?
Je crois qu'on est dans le 20e siècle finalement à un point où, quand on discutait la durabilité de notre développement, les ressources naturelles, les problèmes dans la zone d'atmosphère et tout ça, on ne peut pas les résoudre contre l'économie. Et l'économie ne peut pas procéder sans une compréhension différente des limites environnementales ou les possibilités. Notre action de les mois derniers, c'était de dire qu'avec les politiques économiques de relancer l'économie dans le contexte de notre crise, on doit trouver un chemin pour directer les investissements dans les technologies vertes parce qu'ils sont plus efficaces, dans un autre mode de transport, dans une coopération des pays sur les frontières, parce qu'on a la possibilité de créer des emplois, de relancer l'économie et de réduire le CO2. Et cette combinaison a vraiment une clé pour notre politique aujourd'hui.
Alors, on comprend bien cela dans les pays très industrialisés, mais comment cette économie verte va-t-elle profiter à l'Afrique, par exemple ?
Je crois que c'est en Afrique la même chose. On a la biodiversité, on a le problème de désertification, on a le potentiel économique des énergies renouvelables. Pourquoi ? Dans le 20e siècle, on est encore dans une phase de développement où les pays en Europe sont les principaux acteurs dans le développement des technologies renouvelables. C'est en Afrique qu'il y a un plus grand potentiel pour développer une économie énergétique renouvelable. Ça veut dire dans les villages aussi. La plupart d'Afrique n'a pas accès à l'électricité aujourd'hui. Pourquoi? On doit trouver une autre approche. Ça veut dire si l'Afrique, si l'Asie ne prend pas cette opportunité, ils vont perdre encore une fois dans l'économie mondiale.
Hakim Steiner, merci beaucoup de votre présence durant cette émission. Sylvie Lemay aussi. Sylvie Lemay, on vous entendra régulièrement dans cette émission puisque vous allez venir tous les jeudis nous donner des nouvelles du PNUE.
Avec grand plaisir.
Donc, on peut vous dire à jeudi prochain déjà.
À jeudi prochain, merci.
Merci à vous d'être passé par cette émission.
Merci.
C'est pas du vent.
Comme tous les jours, c'est pas du vent, se termine par un billet d'humeur d'une des grandes personnalités de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est avec vous, Pierre Rabhi. Et Pierre Rabhi, vous nous dites que l'une des urgences, c'est de changer notre regard sur ce qui nous entoure.
Aujourd'hui, nous sommes immergés dans une réalité, ou dans un réel, enfin, appelons ça comme on voudra, dont on n'a pas conscience. On est à la fois dans ce réel qui est magnifique. Moi, je suis vraiment étonné qu'on n'ait pas cette admiration de la vie, qu'au contraire, on défigure la vie, on la détruit de partout, et ce qui met bien en évidence le fait que nous sommes dans une sorte d'aveuglement. Et cet aveuglement, eh bien, il a des effets. D'abord, sur la vie elle-même, et il a des effets sur notre propre vie. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une grande partie, par exemple, des maladies qui nous affectent de plus en plus, qui sont tout simplement dues au fait que la Terre est mal nourrie, qu'elle est polluée, etc., et que ces pollutions, eh bien, des substances, nous les retrouvons dans notre corps. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de mettre en évidence ce lien entre santé de la Terre, qualité de l'environnement et qualité de la santé humaine. Donc aujourd'hui, j'essaye d'amener les gens à être un peu plus attentifs, d'être vraiment attentifs à ce grand, grand mystère de la vie qui est magnifique, qui est plein d'enseignements et qui nous permettrait, si vous voulez, d'être dans une vie sensible, dans une vie consciente. Alors, je ne veux pas devenir moralisateur. Moi-même, j'ai à acquérir évidemment un regard plus pertinent sur la réalité et j'essaye de le faire en permanence. Et donc c'est arriver à dire, mais écoutez, regardez, nous attendons des miracles, alors que le miracle est permanent. Le battement de notre cœur, la respiration, je parle souvent des graines, vous savez, la graine est minuscule, mais il y a tout un programme extraordinaire dedans. Une graine d'arbre peut être toute petite et elle vous donnera un arbre extraordinaire. Donc il y a quelque chose dans ce phénomène qui est absolument de l'ordre de l'enchantement et de la beauté. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas conscients de cette beauté, alors que je ne pense pas qu'une évolution positive de l'humanité puisse se faire si elle ne prend pas conscience de la valeur et de la beauté de la réalité dans laquelle elle est immergée. Alors c'est un peu modestement ce que j'essaye de mettre en avant. Bien sûr, c'est pas simplement une proclamation poétique. Il y a aussi, derrière tout cela, évidemment, des engagements très concrets. J'ai fait d'ailleurs des séminaires avec des médecins en Espagne, où je posais la problématique de la santé par la Terre, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on est allé beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a une sorte d'éveil qui est à faire, et j'essaye de faire ma petite part, si vous voulez, pour contribuer à cet éveil. Mais évidemment, si les gens ne se mettent pas eux-mêmes en éveil, je n'y peux rien.
Ben non, vous n'y pouvez rien, mais quand même, vous faites beaucoup de choses sur le terrain, Pierre Rabhi, et vous nous en parlerez la semaine prochaine, notamment, vous nous parlerez de ce que vous faites au Maroc et au Burkina Faso.
Quant à nous, nous nous retrouverons demain avec la présidente de CAP21, Corinne Lepage, et avec Philippe Collin de la Confédération Paysanne pour commenter l'actualité du jour.
Et notre dossier du jour demain, la deuxième partie de l'émission sera consacrée aux agrocarburants en présence de Sébastien Godineau, des Amis de la Terre, et de Alain Jeanroy, de la Confédération des Betteraviers Français. Rendez-vous donc demain, même planète, même heure.